Cours de théologie mystique, le sacerdoce du Christ, par le Père Philippe, le 23 janvier 1987, à Rimont.
L'attraction du Père sur nous, parce qu'il nous attire par son Fils bien-aimé. et chacun des rayons de sa vie apostolique, de sa miséricorde, nous fait entrer dans cette attraction du Père et donc nous fait découvrir ce qui caractérise la vie chrétienne. On est prédestiné à être des enfants bien-aimés du Père. Et toute la théologie mystique n'a pas d'autre sens que de nous montrer cette prédestination d'enfants bien-aimés du Père. Et grâce à Jésus, on peut essayer de dire ce qu'est cette attraction du Père. Parce que par Jésus, la lumière se réfracte de multiples manières. Ça devient l'arc-en-ciel. C'est vrai, Jésus est pour nous l'arc-en-ciel du Père. Autour du trône, il y a l'arc-en-ciel. C'est la présence mystérieuse de celui qui est notre sauveur. Et c'est la lumière qui se réfracte dans les différents aspects. Et on peut dire que toute la vie apostolique de Jésus nous donne cela. Et donc permet de structurer, grâce à l'arc-en-ciel, une théologie mystique. Mais je crois que c'est la première partie de la théologie mystique. Et la seconde, c'est de comprendre comment, par le cœur des saints, le mystère de l'attraction du Père continue. Bon, les grandes spiritualités dans l'Église, les grands saints dans l'Église nous montrent comment l'attraction du Père continue. L'attraction du Père n'est pas la même à travers un saint Benoît, un saint Bruno, un saint François, un saint Dominique, un saint Ignace, un saint François de Sales, pour ne donner que cela. Mais vous pourriez continuer. C'est toujours l'attraction du Père. Et les saints, j'allais dire, ne m'intéressent au point de vue de la théologie mystique que dans la mesure où ils sont pour moi des rayons de l'attraction du Père, que dans la mesure où ils réfractent pour moi l'attraction du Père, donc dans la mesure où ils sont comme des causes exemplaires de la cause exemplaire unique qui est Jésus. Mais la cause exemplaire entièrement sous l'emprise de la cause finale. Une cause exemplaire totalement finalisée. Ce qui est unique, ce qui n'existe que dans l'ordre surnaturel, ça n'existe pas dans l'ordre humain. Et ça fait comprendre pourquoi il y a toujours une petite tentation d'identifier la théologie mystique avec une théologie esthétique. On peut dire le père Ours Balthazar, ça c'est très typique. Le père Ours Balthazar donne une théologie mystique avec une modalité esthétique. Oui. Et au fond, très souvent, la modalité esthétique est presque plus forte que l'attraction du Père, si j'ose dire. Mais au fond, ça comprend pourquoi il y a si facilement ce mode esthétique symbolique. Parce que le mystère de la cause finale comme telle réclame le silence. Je ne peux pas décrire l'attraction du Père. Quand le Père m'attire, c'est le silence. Et je ne peux rien en dire. Rien du tout. C'est le psyché, comme disent les Grecs, hein, et comme dit Plotin. C'est le psyché. C'est l'au-delà de la contemplation. C'est l'unité. Je suis pris, attiré. par le mystère de la blessure du cœur, je peux en dire quelque chose. Quand cette attraction se fait à travers toute la vie apostolique de Jésus, je peux la comprendre et comprendre à ce moment-là comment le sacerdoce du Christ est vraiment ce qui m'aide à entrer dans l'attraction du Père, ce qui me fait entrer dans l'attraction du Père. Le sacerdoce du Christ est le sacrement pour moi, en prenant sacrement au sens très 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 profond et très radical, signe et instrument de grâce. Le sacerdoce du Christ est le sacrement de l'attraction du Père sur moi. Ce serait peut-être très beau, vous voyez, à essayer de bien traduire ça. Parce que ça donne une signification ultime au sacerdoce de Jésus. Alors on comprend pourquoi Jésus peut dire « Père, glorifie-moi pour que ton Fils te glorifie. » Puisque c'est au fond ce que Jésus traduit de plus intime de son âme de Fils bien-aimé et donc de prêtre par rapport à l'attraction du Père sur lui et sur nous. Il va glorifier le Père et il demande d'être glorifié par le Père. C'est bien la causalité exemplaire présente dans la finalité. La glorification, c'est ça. C'est la causalité exemplaire présente dans la finalité. Puisque c'est ça que nous cherchons. Hein. Nous cherchons. La théologie mystique n'existe pas d'une façon aussi précise que la théologie scientifique de saint Thomas. Or, nous savons qu'on ne peut pas s'arrêter à la théologie scientifique de saint Thomas, qu'on a absolument besoin d'une théologie mystique. C'est nécessaire. Qu'on sait très bien que c'est l'évangile de saint Jean qui peut seul nous la donner. Et que l'évangile de saint Jean doit donc nous aider à la découvrir. Et je crois que c'est ça qui pour nous est le premier moment de cette théologie mystique. Je dis premier moment, c'est-à-dire ce qu'il y a de plus foncier. Alors ça peut se donner selon divers aspects. Donc ceci c'est pour que vous-même vous y réfléchissiez. Hein. Parce qu'il faut faire ça en œuvre commune, hein, la théologie mystique. C'est une œuvre commune qu'on doit faire. On doit rechercher qu'est-ce que c'est que la théologie mystique. Qu'est-ce qu'on veut dire quand on parle de théologie mystique? La théologie scientifique, tout ça, c'est simple, puisque saint Thomas l'a dit. Alors il suffit de comprendre. C'est déjà pas si commode, mais il suffit de comprendre. Tandis que la théologie mystique, saint Thomas a simplement dit qu'elle se servait d'un mode symbolique. C'est déjà beaucoup. Il dit ça en commentant les noms divins. C'est très rare que saint Thomas parle de théologie mystique, mais là il en parle. Parce que de fait, il y a une théologie mystique chez Denis. Denis a écrit une petite théologie mystique. Saint Thomas ne l'a pas commenté, mais dans les dons divins, il fait allusion à la théologie mystique de Denis. Et c'est à propos de cela que saint Thomas nous dit ça. Alors, dans cette perspective, lisons le chapitre 10. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre point par la porte dans la bergerie, dans le bercail des brebis, mais l'escalade par un autre endroit, celui est un voleur et un brigand. Celui, au contraire, qui entre par la porte est un berger de brebis. Donc la définition du berger, c'est celui qui entre par la porte. Il n'y a pas que le berger qui entre par la porte, mais le berger entre par la porte. Causalité efficiente du berger. Tu vois. Celui-là est un voleur et un brigand, celui qui escalade, qui n'entre point par la porte dans la bergerie. n'y a qu'une porte. Celui, au contraire, qui entre par la porte est un berger des brebis. C'est à lui que le portier ouvre et les brebis écoutent sa voix. Et il appelle ses brebis, les siennes, chacune par son nom, et les emmène. Mystère du bon berger, du bon pasteur. C'est tout ce mystère-là qui exprime d'une manière très particulière ce qu'est le sacerdoce du Christ. Les premiers chrétiens étaient très impressionnés par ça. Quand ils ont l'iconographie, la place des brebis. Des petites brebis, c'est extraordinaire. À Ravenne hein, et dans beaucoup d'autres lieux. Mosaïque avec les brebis. Et c'est cette idée, hein, le bon pasteur, c'est celui qui connaît ses brebis. Celui qui est capable de les mener. C'est à lui que le portier, ou voilà, on ne dit pas qu'elle est ce portier. Hein. C'est très curieux parce que ce portier, il est celui qui quand même, hein, il a les clés du verrou. Et le bon pasteur passe, le bon berger, il est obligé d'avoir les bonnes grâces du portier. Il doit se montrer patte blanche. Pour que le portier le laisse passer. C'est à lui que le portier ouvre et les brebis écoutent sa voix et il appelle ses brebis, les siennes, chacune par son nom et les emmène. Rien de systématique, c'est une simplicité extraordinaire. Et c'est pourtant très, très, j'allais dire très pensé. On essaiera de voir ça. Devant elle. Et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles connaissent leur nom et les brebis connaissent sa voix. C'est une relation qui n'est pas mutuelle et qui est assez curieuse. Mais ça, c'est net. Et la comparaison peut aider à comprendre ce que ça représente. Ce que cette brebis connaît sa voix. Les brebis font le discernement entre la voix du bon pasteur et la voix des voleurs. Elles ont donc la capacité sur le discernement. C'est pas le bon pasteur qui se déclare, moi je suis le bon pasteur. Non, c'est les brebis. Toujours comme ça. C'est les brebis qui disent au prêtre, est-ce que vous pouvez exercer sur moi une paternité? C'est pas le prêtre qui dit, je vais exercer sur vous une paternité. Ça va toujours très mal quand on fait ça. Et selon la conversation, c'est très net, c'est les brebis qui connaissent la voix du bon pasteur. Et connaître la voix du bon pasteur, c'est se mettre sous la houlette. Donc, être conduit par lui. Sa voix. Elles ne suivront pas un étranger, mais elles le fuiront. Alors, la parabole, que dit Jésus? C'est très beau ça, c'est le premier plan. C'est le premier plan. Jésus dit donc de nouveau, en vérité, je vous le dis, que moi, je suis la porte des brebis. Donc, on va ici entrer, voyez, pour saisir le bon pasteur dans l'exercice du bon pasteur. C'est le bon pasteur qui nous donne lui-même cette parabole du bon pasteur. Et là, vous saisissez ce qu'est le bon pasteur dans son exercice de bon pasteur. Ça explique pas mal de choses. Ça, Jésus dit de nouveau, en vérité, je vous le dis que moi, je suis la porte des brebis. Première affirmation. Celle qu'on télescope le plus souvent. On a tous retenu la parabole, je suis le bon pasteur, mais je suis la porte. Ça, beaucoup plus difficile. C'est très important. Je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Mais les brebis ne les ont pas reconnus. Ils sont pas connus. Donc, il y a quelque chose d'absolu et de tout à fait nouveau dans le bon pasteur. C'est très rare que Jésus est aussi absolu. D'habitude, Jésus s'inscrit dans une tradition. Ce qu'on voyait ce matin à propos de la loi. Et Jésus ne dit pas du tout, la circoncision c'est rien du tout, c'est pas la peine. La loi c'est rien du tout, c'est pas la peine, pas du tout. Ici, il dit explicitement, tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Extraordinaire ça. Alors oui, pourquoi ça? C'est là où il faut saisir, qu'est-ce qu'il y a? Jésus qui se montre là comme unique. Il est l'unique bon pasteur. Tandis que d'habitude, il s'inscrit dans une tradition. Donc il y a quelque chose là dans cette affirmation qui est d'un ordre particulier qu'on doit saisir. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Mais les brebis ne les ont pas écoutés. Mais comme toujours, le critère de la brebis, elle écoute la voix du bon pasteur. Et la brebis écoutant la voix du bon pasteur, ça ne trompe pas. Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Et il ira et viendra et trouvera pâture. Le voleur ne vient que pour voler et égorger et faire périr. Ça, c'est la définition du voleur. Voler, on comprend très bien. Le voleur vole. Égorger. Un voleur un peu plus méchant. C'est vrai, d'habitude, ils viennent d'abord uniquement voler. Là, ils viennent égorger et faire périr. Ce qui est la conséquence. Moi, je suis venu pour qu'on ait la vie et qu'on l'ait surabondante. C'est toujours dans la perspective que nous nous mettons. Nous essayons de comprendre. voyez, faisons bien attention, hein. C'est à propos de la porte que Jésus dit que tous ceux qui sont venus avant sont des voleurs. C'est pas au sens strict à l'égard du bon pasteur. C'est peut-être important à souligner ça. Moi, je suis le bon berger. Le bon berger livre sa vie pour les brebis. Donc ce qui caractérise le bon berger, on ne dit pas la bonne porte, on dit la porte tout court. Tandis qu'on qualifie le berger. Et la porte a quelque chose de tout à fait particulier, puisque avant le Christ, il n'y en a pas. J'essaie de pousser le plus qu'on peut et prendre ces paroles comme nous révélant quelque chose de tout à fait particulier du mystère sacerdotal de Jésus. Moi, je suis le berger, le bon berger, le bon berger livre sa vie pour les brebis. Le mercenaire. Il y a le voleur par rapport à la porte et il y a le mercenaire par rapport au berger. C'est pas la même chose. Le mercenaire, c'est celui qui n'est pas le bon berger, quoi, tout simplement. C'est-à-dire qu'il n'a pas d'amour pour les brebis. C'est pas voleur. Le mercenaire, celui qui n'est pas berger. Les brebis. Voit-il venir le loup ? Il laisse là les brebis et s'enfuit. Et le loup les emporte et les disperse. Donc, c'est pas un voleur, le mercenaire. C'est pas un voleur. Mais c'est celui qui aime plus sa peau que celle des brebis. C'est celui qui a un amour plus grand à l'égard de lui-même qu'à l'égard des brebis. Le loup, il a peur. C'est qu'il est mercenaire et il n'a point souci des brebis. Donc il n'a pas souci, il n'est pas là pour les garder. Il a pour gagner sa vie, mercenaire. Il gagne sa vie, il y a un contrat. Tandis que le bon berger donne sa vie. Ma vie pour les brebis. J'ai encore d'autres. Il y aura alors un seul troupeau, un seul berger. Voilà, une attention très profonde que nous te trouvons ici, qui est l'unité. C'est pas dit de la même façon, vous voyez, dans la prière. Dans la prière du Fils bien-aimé, juste avant la croix. Mais c'est affirmé avec netteté. J'ai encore d'autres promis qui ne sont pas de ce bercail. Celles-là aussi, il faut que je les confesse. Et elles écouteront ma voix. Il y aura alors un seul troupeau, un seul berger. Voilà pourquoi le Père m'aime. Le Père m'aime. Parce que moi, je livre ma vie pour la reprendre. Voilà la raison, le motif pour lequel le Père l'aime. C'est qu'il est capable d'offrir sa vie pour ses brebis. C'est la grande raison. Parce que moi, je livre ma vie pour la reprendre. Personne ne m'y l'enlève. Et moi, je la livre de moi-même. J'ai pouvoir de la livrer et j'ai pouvoir de la reprendre. L'obéissance avec le Père qui apparaît ici. Et le fait d'offrir sa vie pour le salut des brebis, pour sauver les brebis. Cela relève du commandement du Père. Le commandement porte sur l'exécution et toujours. Il y a eu de nouveau une division parmi les Juifs à cause de ces paroles. Donc le résultat de ces paroles qui doivent conduire vers l'unité produisent immédiatement la division. Beaucoup d'entre eux disent « Il y a un démon, il est fou. Pourquoi l'écoutez-vous ?» Et d'autres disaient « Ce ne sont pas là histoires de démoniaques. Est-ce qu'un démon peut ouvrir les yeux des aveugles ?» A toujours le signe qui est mis là en pleine lumière. On montre la division. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'on commence à entrer dans la lutte. Et donc, on commence à montrer que cette division arrive au moment même où Jésus affirme davantage l'unité. Je crois que c'est tout le temps comme ça. Vous voyez, la première division qui est soulignée, c'est au moment du pain de vie, de l'Eucharistie. C'est important parce que ça fait comprendre d'où ça vient. Ce ne sont pas histoires de démoniaques. Est-ce qu'un démon peut ouvrir les yeux des aveugles? Bon, on va essayer théologiquement de comprendre comment cette parabole nous fait découvrir quelque chose du sacerdoce de Jésus. Puisque c'est ça que nous devons chercher. Ézéchiel 34, 1. Vous avez aussi Isaïe 10. Alors, qu'est-ce qu'il y a de nouveau ici? Je crois que ce qu'il y a de nouveau ici, c'est la porte. Ça, c'est très net. C'est qu'il y a un élément nouveau, tout à fait différent des autres, qui apparaît. Et alors, c'est ça qui est intéressant. C'est que c'est justement à la, par rapport à la porte que Jésus montre que tous ceux qui sont venus avant sont des voleurs et des brigands. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Que, de fait, Jésus met en lumière quelque chose de nouveau comparativement à tout ce qu'ont dit les prophètes avant. Alors, je crois que nous pouvons saisir, en regardant le mystère de l'agneau, selon l'ordre de Melchisédek, c'est-à-dire sacerdoce du Fils bien-aimé, l'Épître aux Hébreux, sacerdoce d'amour, et donc le prêtre et la victime sont un. C'est toujours très important de saisir ce qui nous révèle le prêtre, ce qui nous révèle la victime. Quelque chose qui nous révèle la victime, je crois que c'est serviteur, agneau, pain, porte. Point de vue théologique, je ne me place pas au point de vue exégétique, je me place au point de vue théologique. Au point de vue exégétique, du reste, on voit très bien, il y a des lieux très importants. C'est ce lieu que le père Feuillet aime tant d'Isaïe. Serviteur, agneau. Et puis le thème agneau, pain, église. Et ici la porte. Et la porte n'est pas reliée au pain, à l'agneau serviteur. C'est moi qui le fais. Mais c'est pas du tout relié à ça. C'est tout à fait autre chose. Tandis que là, il y a des liens qui existent. Serviteur agneau, agneau pain. Et donc, il y a là un lien très net entre serviteur agneau, agneau pain. Et c'est l'Église qui met le lien entre l'agneau et le pain. C'est compréhensible, du reste. C'est très compréhensible. Mais, voyez, ça va toujours plus loin. Le serviteur, on s'en sert. On use un serviteur. Le serviteur, c'est un moyen. Il n'est pas le maître, il est le serviteur. On se sert du serviteur. L'agneau, on l'immole. Et le pain, on s'en nourrit. Donc il y a une progression vers un service substantiel. Un service substantiel qui le service, le pain. On voit bien cette progression. Alors, est-ce que le pain, la porte, est encore dans cette progression? Ou est-ce que c'est autre chose? Le symbolisme de la porte est beaucoup plus extérieur qu'au symbolisme du pain. Ça, c'est sûr. À première vue, c'est très net que le symbolisme de la porte est beaucoup plus extérieur que l'agneau et que le serviteur. Les deux conditionnements de l'homme, dont l'homme a absolument besoin, aliment. Maison, abri. Et comme me disait l'évêque de Nazareth du temps, qui maintenant est le patriarche des Maltites, il me disait, la porte, c'est l'abri. Puisque quand on est dans une grotte, il suffit de faire une porte.
Facile.
Il faut s'offrir. Et Jésus devient lui. À la croix, il est victime d'amour. On comprend comment ce sacerdoce d'amour, où la victime et le prêtre font un, est annoncé progressivement, sous des symbolismes différents. Et chacun de ces symbolismes nous font découvrir la victime d'amour. Nous font découvrir comment Jésus se donne. Alors voyez, je crois que ceci est vrai. Je lis tout simplement dans Saint Jean tous ces aspects successifs. Et je vois que de fait, c'est vrai que c'est ce qui caractérise le sacerdoce du Christ. Je suis, il est l'agneau, c'est Jean-Baptiste qui proclame l'agneau. Et puis Jésus dit, je suis le pain. Et Jésus dit, je suis la porte. Je suis. Donc, c'est lui. Et c'est lui dans son œuvre sacerdotale. Dans son œuvre sacerdotale, il est cela. Dans son propre œuvre sacerdotale, où il s'offre lui-même, où il se donne lui-même. Il est cela. Alors, ça fait comprendre tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Parce que ils ne sont pas la porte des brebis. Il est le seul à être la porte des brebis, ça c'est parfaitement exact. Et donc tous les autres ne le sont pas, et par le fait même qu'ils ne sont pas, il n'y a pas d'intermédiaire, ils sont des voleurs et des brigands. On va très loin ça. Si on n'est pas porte, on est voleur et brigand. Vous voyez, pour ce que représente le sacerdoce royal des fidèles. Sacerdoce royal des fidèles, c'est surtout du côté de l'état victimal du Christ qu'il faut le comprendre. C'est là où on le comprend le mieux. On comprend très bien comment Dieu demande à Marie de ne pas être prêtre au niveau sacramentel pour être plus prêtre au niveau victimal. C'est net. Tous ceux qui ont connu Marthe Robin ont très bien compris. Et puis tous ceux qui essaient d'entrer dans le mystère de la compassion comprennent ça tout de suite. Et c'est le grand argument qu'il faut hein, aujourd'hui. Parce que quand il y a tous les arguments pour le sacerdoce de la femme, sacerdoce ministériel, il faut comprendre la raison profonde de la sagesse de Dieu. Et la raison profonde de la sagesse de Dieu ne peut se comprendre qu'à partir du sacerdoce du Christ, qui est un sacerdoce d'amour, où la victime et le prêtre ne font qu'un. Et où, d'une certaine manière, comprenez bien, la finalité de ce sacerdoce est du côté de la victime et l'efficience du côté de l'acte du prêtre. Le sémovere du prêtre, celui qui se meut, c'est la cause efficiente. Tandis que le côté final, c'est l'état victimal. Donc, l'état victimal enveloppe l'action du prêtre. Le sacerdoce du Christ ne se comprend qu'à travers son état victimal, de lui-même. C'est pas l'inverse. Parce que l'efficience, la cause efficiente, ne se comprend jamais sans la fin. Et la fin se comprend toute seule. La fin n'a pas besoin d'efficience. Et l'efficience a besoin de la fin. C'est pour ça qu'on dit que la cause finale est cause des causes. Parce que l'efficience a toujours besoin de la fin. Alors c'est très important par rapport au mystère du sacerdoce de Jésus. C'est que le Christ, à la croix, victime d'amour, sa cause finale, c'est en tant qu'il est victime d'amour qu'il attire tout à lui, plus que comme prêtre. Et c'est identique, il y a toujours pour nous deux aspects, parce que l'aspect victimal est ultime. C'est du reste pour cela que le Christ étant déjà mort, il y a le coup de lance. L'aspect victimal déborde. Que le Christ a voulu mener une vie cachée, où l'aspect victimal pouvait se réaliser dans l'obéissance à Joseph et à Marie, et où l'aspect sacerdotal ne s'est pas réalisé, c'est pas exercé. On va dire Jésus a perdu du temps, hein. Ouais. La vie cachée, il a perdu du temps. Non, tout ça se comprend par l'aspect victime d'amour. Parce que dans l'état victimal d'amour, qui est final, donc tout est enveloppé par l'aspect victimal d'amour, le sacerdoce du Christ, l'aspect causalité efficiente du sacerdoce. Le prêtre, c'est celui qui opère pour le salut des autres. Il est médiateur. L'aspect médiateur, est-ce que c'est l'aspect victimal ? Ou est-ce que c'est la causalité efficiente ? Vous voyez, cette fameuse question qu'on se pose toujours, pourquoi saint Thomas distingue-t-il le sacerdoce et l'aspect médiateur ? Là, vous l'avez, la raison. Puisque, en tant que médiateur, c'est causalité instrumentale. Est-ce qu'il est causalité instrumentale en tant que victime ? Ou est-ce qu'en tant que victime, vous touchez l'amour ? Et au point de vue de l'amour, il n'est plus instrument. Il glorifie le Père. Donc il est conjoint au Père. Et c'est pour ça qu'il attire. Quand je serai attiré sur le bois, quand je serai attaché sur le bois, donc quand je serai dans un état de victime, j'attirerai tout à moi. C'est la victime qui attire. Et ce n'est pas au sens strict. Le sacerdoce, la médiation sacerdotale. Oui, comme c'est important de faire cette petite distinction, hein. Causalité finale et causalité instrumentale. Le sacerdoce est causalité instrumentale, même dans le Christ, instrument conjoint, mais causalité instrumentale. Donc, causalité efficiente, instrumentale, en tant que prêtre, il est médiateur. Causalité finale. Et c'est pour ça que l'état victimal va plus loin que le sacerdoce. Parce qu'il est l'ordre de l'amour, et parce qu'il est l'ordre de l'amour, il glorifie. Jésus glorifie le Père en étant victime. Il ne glorifie pas le Père par sa causalité efficiente. Au sens strict, hein, précise, formalisé, ne faites pas dire des bêtises, parce que si vous faites de la distinction, des séparations, ça deviendra complètement idiot. Enfin, mais j'essaie de creuser le plus qu'on peut. On peut le faire en théologie mystique. Et la théologie mystique va mettre ça en pleine lumière, c'est ça qui est très étonnant. Ce sont des distinctions que je crois qu'on peut faire en théologie mystique. Parce que la causalité finale, la causalité finale et la causalité exemplaire en théologie mystique passent devant. Et donc permet de mettre en pleine lumière ce qui glorifie le Père. Que le Fils puisse te glorifier. Il le glorifie le Père en étant victime d'amour. Bon, je crois que ça, nous pouvons tous saisir cela. S'il y a des petits points d'interrogation, notez-les. Parce qu'il faut toujours noter ces petits points d'interrogation. Et puis, vous me le direz. Parce que c'est très important, on touche quelque chose ultime, là, vous voyez. Et c'est très beau que la parabole du bon pasteur m'oblige de voir ça. Autrement, c'est une espèce de contradiction. Il est porté, les bons pasteurs. Ouais, mais... Ça va plus du tout, hein, ça va pas du tout. Comment le bon pasteur peut-il être porté? C'est le langage symbolique, c'est exactement comme dans l'Apocalypse, où on voit les quatre vivants, et puis l'agneau, puis comment ça se fait? Quel est le lien entre les deux? Oui, ici aussi, si vous voulez mettre une logique entre la porte et le bon pasteur, ça va pas du tout. Parce que le bon pasteur n'est pas la porte, vous comprenez bien. Ça va pas. Et symboliquement, quand il s'agit de ce bon pasteur, le véritable bon pasteur, le bon, il est pasteur bon parce qu'il est porte. Il est pasteur bon parce qu'il est victime d'amour, parce qu'il donne sa vie pour ses brebis. Il est prêtre bon parce qu'il est victime d'amour. Un bon prêtre, c'est celui qui est victime d'amour. Autrement, il est un serviteur. Mais il est un bon prêtre, curé d'Ars. C'est un bon prêtre. Et les gens le disent, ça. Ah, ça, c'est un bon prêtre. Il se dévoue. Il se donne entièrement. Il n'a plus rien pour lui. Tandis que celui qui garde pour lui quelque chose, vous voyez, qui fait son petit jardin, son petit verger, sa petite vigne, sa petite vigne, et sa cave, c'est... Alors, on ne peut pas dire qu'il est un bon prêtre, parce qu'il profite sur les brebis. Il tond les brebis pour l'hiver, pour lui. Il a l'argent de la quête. Alors, il n'est pas bon. Tandis que celui qui est bon prêtre, il est donné, il se livre. C'est pour ça que c'est très fort le bon pasteur, le bon berger. Alors, je reviens toujours à ça, parce que c'est quand même très curieux. Ce symbolisme de la porte. Pourquoi ce symbolisme de la porte? De Jésus, parce que je crois ça, je peux le dire maintenant, hein. Je peux dire que là, j'ai toutes les expressions de la victime. C'était un victimal. Du pain, il se donne comme aliment substantiel.